Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Moi, ça m'est arrivé le lundi à 10h d'envoyer les résultats aussitôt au Portugal et qu'on dit rendez-vous mercredi matin 10h à la clinique. Et du coup, le lundi à 18h, tu te retrouves à booker avion, hôtel, machin, etc.
On sent sur leur visage qu'ils ne sont pas prêts quand on dit non, mais en fait, je suis lesbienne, quoi, donc je ne peux pas faire autrement. Et là, c'est la panique à bord. Moi aussi, après, ça me met mal à l'aise parce que je pensais que c'était accepté, que c'était ancré dans leur petite tête de coco, mais en fait, pas du tout, quoi.
Ouh là là, c'est la décadence. Hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Hein.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de...
Contre nature.
J'adore, au moins tout le monde a la ref.
Aujourd'hui, je suis avec trois femmes contre...
Ouais, on est en majorité.
Lesbian power.
Pour une fois. Lesbian power, on est dans la place. Yes. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'un sujet dont on n'a pas vraiment traité sur Paint jusqu'à présent, et encore moins sur Contre Nature. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a très peu d'informations. Beaucoup de femmes sont un peu perdues dans ce parcours parce que très flou. Et donc aujourd'hui, on va parler de PMA, donc de procréation médicalement assistée.
Yes.
Et donc, on est en compagnie de Fiona et de Cindy. Voilà.
Qu'on va vous présenter tout de suite. Moi, juste pour le petit contexte, la petite histoire, rien qu'en faisant des recherches pour la PMA, spécifiquement justement pour les femmes lesbiennes, pour les couples de femmes, j'ai vraiment trouvé très peu d'informations. Et le plus d'informations que j'ai trouvées, c'est par rapport aux femmes seules et aux couples hétéros. Et je me suis dit, attends, mais l'info des femmes lesbiennes ou des couples de femmes, elle est où, quoi?
Ouais.
Le petit contexte, juste pour dire que j'ai préparé comme j'ai pu et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Alors ouais. Que ça concerne, pas surtout, mais bref, on en vient.
On a donc Fiona et Cindy qui ont deux parcours différents, puisque Fiona a eu son parcours au Portugal.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Cindy, en France?
Oui. Sur Lyon.
Sur Lyon. Ok, donc je pense que pour commencer, est-ce que vous pouvez, quelqu'un veut nous dire exactement qu'est-ce que c'est la PMA, quels sont les termes à comprendre avant de commencer le sujet?
Ouais, bah écoute, en fait, en PMA, tu as procréation médicalement assistée, du coup, tu as ce qu'on appelle l'IAD, donc c'est l'insémination artificielle, où là, en fait, tu as tout un process, on va prendre les gamètes et on va faire une insémination comme ça. Bon, après, ça dépend des stimulations, tu as quand même une stimulation médicale, etc., en fonction des personnes, ça peut être super léger ou ça peut être un petit peu plus lourd en fonction des tests médicaux. Donc voilà, tu as l'IAD, tu as la FIV, fécondation in vitro. Voilà pour les deux termes, on va dire, principaux, les plus connus.
Ça, c'est les deux techniques. Si demain, ouais. Tu vas avoir un enfant, soit tu le fais par insémination artificielle, soit tu fais par FIV, donc fécondation in vitro.
Après, ça, c'est les voies légales, entre guillemets, parce que tu as aussi l'insémination artisanale. Et tu as beaucoup de femmes, en fait, qui en passent par là aussi, parce que les délais trop longs, les coûts trop excessifs, etc., quand tu vas à l'étranger. Et donc, du coup, tu as ce truc-là, mais qui amène encore une autre discussion, je pense, qui est un peu plus compliqué.
Artisanal, c'est-à-dire?
Tu prends, les gamètes de ton côté. En gros, soit tu te les fais livrer chez toi, ce qui est possible aussi, suivant les plateformes de vente de sperme, tout simplement. Et en fait, tu fais l'insémination...
Toi-même?
Ouais, à la maison. Même à la maison. Okay. Ah ouais. Je sais pas si tu vois un peu The L Word, on va revenir un peu dans le temps, tu vois, mais c'est un peu la scène Beth et Tina au début, tu vois, où en fait elles ont la pipette, elles ont été voir leurs copains et puis en fait elles font ça à la maison.
Tu le fais toi-même.
Tranquillement, tu fais toi-même. Sauf qu'après, bah, t'as pas de cadre légal, médical, etc. Donc après, bon, ça entraîne d'autres sujets. Mais en tout cas, pour la PMA, procréation médicalement assistée encadrée, t'as l'IAD et la FIV.
C'est un homme qui m'a appris à tricoter et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein.
Pour commencer, on aimerait bien justement que vous nous racontiez un peu chacune vos parcours avec la PMA. Je sais pas qui veut commencer par rapport à...
Je t'en prie.
Allez. ouais, du coup, moi, je l'ai fait au Portugal. En fait, avec ma femme, Alexandra, on a choisi le Portugal. En gros, on savait d'ores et déjà, vu les conditions de la loi, etc., que ce ne serait pas possible pour nous en France. À l'époque, j'avais 34 ans quand on a regardé. On nous disait qu'il y avait 2 ans de délai d'attente. Enfin, c'était... voilà. Et en gros, on avait quand même consulté une gynéco qui est absolument incroyable, qui rédige des tribunes depuis des années pour dire au gouvernement « je ne comprends pas pourquoi je dois envoyer mes patientes à l'étranger pour faire un truc que je peux faire moi, en fait ». Donc on a été la consulter. Super important pour les personnes qui veulent se lancer dans un parcours. Il faut quand même avoir quelqu'un, un gynéco ou une gynéco en France pour le suivi. Sinon, on va se retrouver avec des ordonnances de l'étranger et en fait, ça va être... payer de notre poche en fait les médicaments, etc. Donc c'est un peu voilà, faut le savoir quand même, c'est pas parce qu'on le fait à l'étranger qu'il n'y a pas de suivi en France, parce que le suivi à l'étranger, en fait, on nous dit le lundi pour le mardi ou le mercredi, il faut venir à la clinique, donc il faut faire des échographies, donc c'est super important d'avoir un suivi en France. Donc voilà, et on a quand même rencontré cette gynéco pour lui dire bah, est-ce qu'en France c'est possible, pas possible. Elle nous a dit sincèrement, vous avez complètement raison d'aller à l'étranger. Ça, c'était en 2021 à peu près. Okay. Elle a dit, il y a 2 ans d'attente, les conditions ne sont pas réunies, vous, votre projet de parentalité ne va pas être respecté. Parce que nous, on voulait un donneur non anonyme. Okay. Ça, c'est un choix qui est très personnel. Mais enfin, nous, on voulait pouvoir répondre à certaines questions. Donc, voilà. Donc,
Parce qu'on précise qu'en France, c'est illégal, les donneurs non anonymes.
Pour le moment, ouais. En fait, ils sont en train d'écouler, entre guillemets, les stocks de donneurs anonymes pour changer, pour passer ensuite avec les nouvelles gamètes avec des donneurs non anonymes. Okay. Mais sous quelles conditions, c'est pareil, en fait.
Mais c'est pas dans la loi encore pour l'instant.
Bah, en fait, c'est passé dans la loi, ils sont en train d'écouler. Je crois que c'est à partir de 2025, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, en fait, moi, de ce que j'ai compris, après, de ce que m'a expliqué le biologiste, c'est concrètement, les donneurs sont non anonymes. Nous n'avons aucune information, nous ne pouvons toujours pas les choisir. En revanche, l'enfant, à partir de ses 18 ans, il peut demander d'avoir des informations. Mais la personne est quand même dans la capacité de dire non, je ne veux quand même pas dévoiler mes informations. Mmh. Donc ça reste en soi de l'anonymat s'il le souhaite.
Ok.
Mmh. Ouais, c'est pareil pour le Portugal. Enfin, après, il choisit. Après, c'est vrai que nous, c'était plus le dire. Bah, en plus, ils remplissent. Nous, on avait le choix en fait, entre soit donneur de la clinique, soit passer par une plateforme de vente qui s'appelle Cryos, en fait, qui est la plus connue. Et en gros, sur Cryos, nous, on a regardé, on nous envoyait quelques profils, la clinique nous envoyait quelques profils, et en fait, on avait juste les informations de base, en fait. Et on était un peu embêtés, parce que nous, on était vraiment partis de l'idée qu'on voulait pouvoir répondre à quelques questions si notre enfant nous demande des choses. Donc, en fait, on a préparé un dossier, nous, avec toutes les informations qu'on a à disposition. Et en fait, via Cryos, les donneurs font des lettres. Pourquoi je donne aujourd'hui mon sperme avec, je sais pas moi, sa couleur préférée, son livre préféré, son meilleur souvenir, son
pire
souvenir.
Et tu vois sa tête, du coup ?
Ouais, t'as des photos, en fait, de quand ils sont bébés, etc. Après, c'est plus le feeling, je trouve, parce que, en fait, t'en as certains qui répondent vraiment des trucs de base, genre oui, non, etc. Et c'est vrai que nous, on a été vachement... Enfin, on a fait une sélection aussi. C'est horrible de dire ça, sélection de donneurs, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme ça qu'on a fait. Et en fait, avec quelqu'un qui paraissait super gentil et avenant, avec des réponses, en fait, qui collaient aussi, nous, à qui on est, quoi.
Ah, mais tu l'as rencontré, du coup?
Non, on l'a pas rencontré. Ah, okay, en fait, okay, si tu veux, il te donne accès à, un dossier complet.
Parce que t'en parlais avec tellement de, j'ai envie de dire, de bienveillance ou de douceur que je me suis dit, ah, il y a eu un contact humain, quoi. Mais en fait, non.
Non, il n'y a pas eu de contact humain, mais c'est vrai que son dossier était chouette. Et puis, en fait, on y a été au feeling, en fait. Parce que comment tu choisis ça? Enfin, c'est pas possible.
Mais ça, c'est les cliniques qui te le proposent, de ce service?
Non, en fait, t'as la clinique qui te propose, eux, leur donneur. Et puis après, si ça ne te convient pas ou si tu as envie de passer de faire autrement, tu as la possibilité de passer par des plateformes. Nous, j'avoue qu'on était un peu embêtés à l'idée d'avoir simplement comme information la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et tout va bien médicalement.
Ça se comprend.
Et ouais. Ça, c'est en France ou au Portugal ?
Au Portugal.
Au Portugal, ouais. Parce qu'en France, c'est
en
pas France, possible.
Non, en France, voilà. Enfin, ça, okay. Cindy, elle en parlera mieux que moi, mais je sais que moi, j'ai des potes qui sont en parcours en France et elles n'ont absolument aucune information, rien du tout. Et après, voilà, c'est un choix personnel aussi, et pas que personnel aussi. Tu as des problèmes aussi, tu as des gens qui rencontrent des problèmes de coûts financiers. Enfin, nous, je sais que pour rentrer dans le détail de la PMA au Portugal, nous, notre gynéco, quand on l'a vu, elle nous a dit « Allez-y, moi, je vais vous faire votre suivi. » Donc, en fait, tu as tous les examens médicaux que tu fais en France, hein, pour savoir si tu es fertile, pas fertile, etc., pour pouvoir adapter le traitement aux besoins. Et puis après, en fait, tu te retrouves à devoir aller au Portugal, et puis tu leur poses la question sur les donneurs, ils t'envoient, tu choisis pas. Et puis voilà, mais ça coûte de l'argent en fait. C'est-à-dire que tu passes par la clinique, ça te coûte pas grand-chose en soi. Tu passes par une plateforme comme Cryos, bah, tout de suite en fait, parce que tu sélectionnes aussi tes gamètes, si elles sont très traitées, pas trop traitées, etc. Et en fait, le prix change en fonction de ça aussi. Et si c'est super traité, tu multiplies les chances, entre guillemets, de réussite.
Qu'est-ce que tu entends par traité ?
En gros, alors, il faudrait rentrer dans les détails super médicaux, super machin, etc. Mais ils appellent ça des mottes. Et en gros, par exemple, bah, ils vont garder que les spermatozoïdes qui sont super vifs, quoi.
Ok, ok. Mmh. Plus de chances, quoi. Ceux qui vraiment, ouais, vraiment ont plus de chances de...
C'est ça, de fonctionner, survie, quoi.
Et donc, concrètement, par exemple, là, moi, Aline, 30 ans, je veux un enfant. Ouais. Je suis en France. Enfin, je suis en France, mais je veux peut-être aller à l'étranger.
Ouais.
Quelle est la première chose que je fais ?
Bah déjà, tu vas avoir un ou une gynéco pour vraiment avoir toutes les étapes, etc. Puis avoir quelqu'un qui va te suivre, parce que cette personne va te faire potentiellement un truc de déclaration infertilité, etc. pour que tu puisses être remboursé de tes soins en France.
Okay.
Donc ça, c'est quand même pas négligeable, parce que bah, en fait, avec tous les examens qu'il y a à faire, ça coûte quand même pas mal d'argent. Il faut aller voir un ou une notaire, parce qu'il y a la reconnaissance conjointe anticipée, et ça, t'as beaucoup de couples en fait qui le savent pas et qui le font après. Sauf qu'après, c'est trop tard, tu dois quand même passer par une adoption plénière, etc. Donc ça, avant toute procédure, quelle qu'elle soit, même si l'insémination ou autre a lieu genre un an après, c'est pas grave, en fait. Il faut faire la reconnaissance conjointe, parce que ça protège tout le monde. Et ça veut dire que moi, Alexandra, quand Charlie est née, en fait, bah, elle a juste été en mairie déclarer l'enfant. Et on a juste présenté la reconnaissance conjointe. Elle n'a pas eu besoin de passer par l'adoption, quoi. Donc ça, c'est super important. Et puis, il faut prendre rendez-vous avec plusieurs cliniques, je pense. Parce qu'il y a une question de feeling aussi. Tu as des gens qui vont se sentir très bien, par exemple en Espagne, d'autres qui vont se sentir très bien au Portugal, etc. Nous, on est passé par le Portugal sur les conseils de notre gynéco, pour le coup. Parce qu'elle nous a dit, en gros, pays du Nord, après, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais pour elle, c'était un peu l'usine, dans le sens où c'est beaucoup, parce que c'est des gros, gros centres, etc. Et moi, c'est vrai que Portugal, toute petite clinique au milieu du Portugal, si tu veux, qui est super intime. Enfin, voilà, on n'a jamais été beaucoup dans la clinique. Et donc, tu avais un suivi qui était extrêmement personnalisé.
Mmh.
Et donc, je pense que ouais, c'est les premières étapes. C'est vraiment de ne pas hésiter à prendre des rendez-vous visio avec différentes cliniques pour voir si le feeling passe bien, les conditions sur place, etc. C'est super important, je trouve, pour se sentir à l'aise, parce que c'est des procédures. Enfin, tu es quand même dans un bloc opératoire. Tu n'es pas forcément opéré, mais tu es dans un bloc, en fait, et tu as l'insémination. Il faut que l'équipe encadrante soit chouette, quoi. Sinon, ça, c'est pas trop chouette, quoi, pour toi.
Et du premier rendez-vous au dernier, ou un des derniers, combien de temps s'est écoulé entre la première consultation et la dernière ?
Sincèrement, ça a été très vite. Enfin, dans le sens où début 2022, on a fait un premier essai. On a eu la clinique fin 2021.
Ok.
Et après, bon, moi, j'ai dû me faire opérer parce que j'avais des polypes, donc ça a décalé la procédure, etc. Mais en gros... Charlie est né en septembre dernier, là, 2023, et je pense qu'on a dû mettre un an et demi en tout.
Ok.
Ouais, mais parce qu'en fait, on s'est dit, on avait économisé parce qu'on savait qu'on allait devoir le faire à l'étranger.
Ok.
Donc en fait, on s'est dit, moi, en plus, il y avait des traitements médicaux à prendre, etc. Donc moi, j'ai dit, si j'arrête maintenant, parce qu'il y a de la fatigue, il y a des effets secondaires, etc. Je me suis dit, si j'arrête maintenant, bah, en fait, je sais pas si. Enfin, si, j'aurais repris, mais je pense qu'une fois que tu es dans la dynamique, tout le monde peut pas le faire, parce que bah, du coup, quand tu as des coûts qui s'ajoutent, voilà. Mais voilà, nous, on avait anticipé les coûts financiers, et du coup, on s'est dit, vas-y, on enchaîne. Donc, on avait fait un essai en juin, on en a fait un autre en juillet, en IAD, du coup, en insémination, et après, on est passé sur une FIV, parce qu'on s'est dit, au Portugal, on m'a pas fait passer d'examen supplémentaire, c'est-à-dire que moi, j'ai juste dit, je veux une FIV. Et on m'a dit, OK, on fait une FIV. Il n'y a pas eu de contre-indication, ni rien du tout. Et en fait, on est passé sur une FIV parce qu'on avait trois lots de notre donneur. On avait mis tellement de temps à choisir qu'on s'est dit, OK, on fait une FIV, on verra. ça va coûter plus cher, mais bon, c'est un coût, on sait dans quoi on s'engage. Quoi.
Et FIV, pourquoi FIV, t'as plus de chances que l'insémination artificielle?
Ouais, parce qu'en fait, comme il féconde les embryons directement, en fait, moi, par exemple, bon, après, t'as d'autres procédures. Non, pour le coup, moi, j'avais une ponction d'ovocyte, du coup. On ne le dit pas, donc s'il y a des gens qui se lancent dedans, moi, je sais que ça a été extrêmement douloureux pour moi. Je pense que ça dépend des personnes, mais je me suis réveillée, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc, il faut le savoir quand on se lance là-dedans. Je le préviens parce que moi, je n'avais pas du tout fait de recherche là-dessus. Et donc, la douleur, c'est un peu surprenant quand tu sors d'un truc qui est censé être bénin, qui dure 15 minutes et voilà. Et en fait, ils te font la ponction d'ovocyte. Après, ils font en laboratoire, ils font ce qu'ils ont à faire, en gros. Et moi, par exemple, j'avais, je sais pas, une quinzaine d'ovocytes qui étaient matures, comme ils appellent ça. Et puis, en fait, j'avais 6 embryons à la fin. Donc, et puis, en fait, ils les mettent en culture pendant 5 jours. Pour être sûr que ça tient, en fait. Après, bon, si ça tient pas, une fois qu'ils t'ont inséminé, bah voilà, ça tient pas. Mmh. Mais oui, ils s'assurent de garder, entre guillemets, les embryons les plus solides pour les procédures qui suivent. Voilà.
Et combien de fois t'as dû aller au Portugal pour...
Au total, alors une fois en juin, une fois en juillet, une fois en septembre, on est retourné en décembre, 4 fois.
4 fois en, donc, ouais. en
quelques mois, là, ouais.
Et combien ça t'a coûté, si c'est pas indiscret, tout le processus à peu près?
À peu près 15 000 euros.
Ah okay, ouais.
Ouais. Ouais, quand même. Hein.
Ouais, ah oui, 15 000 euros.
La FIV, c'est à peu près 5 000. Quand tu passes par cryo, c'est en fonction de ce que tu prends comme paillettes, en fait, ça peut aller de 1 400 euros à 5 000 euros à peu près. Puis tu as les allers-retours, donc tu as transport, etc. Enfin, tu as tout ça. Et puis ce qui est important aussi quand tu vas à l'étranger, c'est qu'il faut que tu fasses une demande en fait, au centre de soins à l'étranger, pour être remboursé. Donc, tu as prise en charge, etc. Donc, c'est rien du tout. Sincèrement, en fait, ils te remboursent sur les baromètres français. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, une insémination, ça coûtait 1 600 balles à peu près. Ils remboursaient 38 euros.
Super.
Donc, on a dit OK, c'était même pas le prix des dossiers envoyés à la poste.
Dis le garder, quoi. Merci.
Voilà, c'était un peu ça. Et puis, c'est de la charge mentale pour rien. Mais, ouais, à peu près 15 000 euros.
Donc, relativement, j'ai envie de dire, je suis pas du tout concerné, mais j'ai l'impression quand même, par rapport à des témoignages qu'on a pu recevoir, que c'est un processus beaucoup plus rapide qu'en France où ça prend.
Mais rien ne te garantit que tu l'aies, là, tes 15 000 euros. C'est parce que tu as fait des tentatives, mais ça aurait pu ne pas réussir.
Ça aurait pu ne pas fonctionner, ouais.
Et là, tu repars sur 15 000 euros pour retenter,
ouais,
par exemple.
Ça. Tu vois, donc, si les paillettes n'avaient pas fonctionné du tout, par exemple, en fait, tu repasses par des paillettes et tu repayes 5 000 balles. Et puis voilà, tu sais, des coûts supplémentaires. Après, bon, je pense que là, on se serait dit, on fait une pause, on économise, on recommence après. Mais pour le coup, ouais, c'est.
Et c'est pas négligeable, quoi, comme quoi.
Ah non, okay. C'est pas négligeable. Tu vois, nous, on avait anticipé le truc. Hein. On a vu la gynéco, elle nous a dit, vous avez raison d'aller à l'étranger. Ça a été la première personne à nous dire, la loi, c'est n'importe quoi. En fait, elle est discriminante aussi, parce que du coup, elle continue à creuser un peu l'écart et les inégalités entre les personnes qui peuvent le faire à l'étranger et les personnes qui vont le faire en France, pas dans les bonnes conditions, etc. Donc, on s'est dit, bon, OK, on va rester sur notre idée première, on va partir à l'étranger, quoi. On ne voulait pas attendre 2 ans, enfin, c'était...
Oui, parce que c'est discriminant aussi par rapport au temps, parce que si tu es une femme qui est 4 ans, bah là, d'ailleurs, l'âge maximum, je pense que c'est 45 ans, donc si tu as 43 ans, tu n'es même pas dans les délais, en fait, légaux pour pouvoir, j'ai envie de dire, postuler, mais pour faire appel à PMA.
Ils ne te prendraient pas, en plus, je pense. Enfin, je sais pas, il y a des sécos qui sont extrêmement discriminants en France, en tout cas, de ce que moi, j'ai entendu.
Et du coup, ton processus en général de 1 à 10, tu donnerais quoi comme note, justement, sur ton parcours? En termes de facilité, en termes de temps, en termes de tout, en fait.
En termes de facilité, sincèrement, je vais dire 8. Mais parce qu'en vrai, les difficultés, ça va être les échecs. Les deux IAD qui n'ont pas fonctionné. Mmh. Donc, du coup, tu as le moral un peu, tu te dis mince, etc.
Et ça, c'est la faute de personne, finalement.
C'est la faute de personne. Enfin, tu vois, tu peux pas anticiper ce genre de choses. Et puis, sincèrement, je trouve que même les équipes médicales en France sur lesquelles on est tombé, quand je compare avec d'autres personnes, en fait, qui ont rencontré des gens, après, on a eu des situations assez discriminantes, etc., bien sûr. Notamment à la naissance, parce qu'en fait, il y a encore marqué père et mère sur le carnet de santé des enfants.
Ah ouais,
ouais, en ouais. Okay. L'officier d'état civil, quand il passe en maternité, il a dû barrer père partout pour marquer, etc. Donc, nous, on a fait courrier ministère, mairie de Paris, etc., en disant, attendez, je comprends pas, sur le carnet de santé, on a dû coller une étiquette pour marquer mère, tu vois, c'est absurde. Ah oui. Et donc, il y a des trucs comme ça, en fait, qui peuvent être extrêmement violents, en fait, en fonction de... des situations, et voilà, mais sinon les équipes, mais enfin à chaque fois que j'ai dû passer des examens, la gynéco, enfin en fait on a été voir quelqu'un de spécialisé aussi, super bienveillante, etc., les équipes très bienveillantes, donc je dis 8 parce qu'on a eu de la chance, en fait ça a marché relativement vite, il va bien, il est en bonne santé, nous on n'a pas, tu vois, je sais qu'on a encore 2 embryons au Portugal si jamais on veut avoir un deuxième enfant. Et voilà, enfin, tu vois, je sais qu'il y a des parcours qui sont extrêmement difficiles, donc ce serait un peu gonflé de dire que ça a été difficile. Bien sûr, il y a eu des situations discriminantes, mais bon, ça...
Oui. Il a quel âge aujourd'hui, du coup ?
5 mois et demi.
5 mois et demi, ok. Ouais. Ah ouais. Et ça va, tu dors, vous dormez ?
Non, tu as une autre question ? Non. Non, non, lui, il dort bien, par contre, mais nous, non.
Du coup, bah, pour toi, Cindy, qui est passée par le... Enfin, toi, du coup, tu as fait le processus en France. En tout cas, tu es en plein.
Oui.
Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus ?
Alors, avec ma compagne, en fait, ça faisait un an et quelques qu'on était ensemble, à peu près. Et puis, bah, la loi est passée. Et on s'est... Enfin, je l'ai regardée, je ne lui ai même pas laissé le choix, en fait. Je lui ai dit, écoute, bah, je pense qu'on devrait se lancer dans une...
Pardon. T'inquiète.
On devrait se lancer dans une PMA parce que je pense que ça va être long. À ce moment-là, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, en octobre 2021, j'appelle le SECOS, après avoir perdu déjà un temps avec une gynéco spécialisée PMA sur Doctolib, qui m'a dit, mais en fait, vous venez pour me voir pourquoi, en fait.
Tu peux préciser ce que c'est le SECOS ?
Alors, le SECOS, c'est le centre de don pour récolter les gamètes et les ovocytes en France. Il y en a un dans chaque région ou département.
À peu près, je crois, un département.
Et moi, j'appelle le SECOS en octobre 2021, premier rendez-vous, avril 2022. Déjà, le délai, on ne sait pas ce qui va se passer à ce rendez-vous. On va rencontrer un gynéco qui a été choisi sur la liste. C'est un peu la roulette russe.
Et 5 mois déjà, 5 mois d'attente juste pour
juste pour ça. On rencontre cette gynéco qui, en plus, je pense qu'elle n'avait pas déjeuné, donc elle n'avait pas le temps de répondre à nos questions. Moi, je vis avec une scientifique qui a 1 million de questions à poser. En plus, elle est allemande, alors avec son français à peu près, elle a essayé du mieux qu'elle pouvait. Bref, aucune réponse sur d'où viennent les dons, comment ça se passe, pourquoi je dois passer tel examen, etc. Enfin, on part dans un flou complet avec juste prochain rendez-vous, décembre 2022, vous rencontrez le psychologue pour valider votre dossier. Ok.
Donc, tu n'as pas d'informations de cette personne ?
Non,
pas trop. Par rapport à l'origine ?
Non, par rapport à l'origine, en fait, bah, vous savez, madame, on fait des dons comme on donne son sang. Bah, non, en fait, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ?
Tu as senti du mépris parce que vous étiez lesbienne aussi ou pas ? Ou c'est même pas ?
Non, je pense que c'était juste... en fait, ils sont submergés par les demandes. Du coup, ils n'ont pas le temps. Je pense qu'on était la question de trop et que du coup, bah, on passe au patient suivant. Quoi, parce que la patiente d'avant a dû poser la même question. Le mari, le conjoint, peu importe, et que nous, encore une fois, on pose aussi cette question. Donc en fait, ils n'en peuvent plus, ils sont submergés. Mais
ce qu'il y a, c'est que si tout le monde pose la question, l'information n'est pas du tout accessible, tu vois, c'est quand même dingue.
Oui, c'est ça le problème, ouais. En fait.
Et que ce n'est pas négligeable comme question, enfin, c'est pas genre...
Et donc de base, c'est elles, enfin, eux-mêmes n'ont pas la réponse ou ne sont pas formés par rapport à ça ou ne sont pas prêts ou préparés ?
Je pense qu'en fait, ils n'ont pas la réponse parce qu'en écoutant différentes interviews, podcasts ou autres, je me suis rendu compte en fait qu'ils n'ont pas tous les mêmes réponses.
Okay.
Quand j'ai écouté il n'y a pas très longtemps le SECOS sur Paris, ils disent nous, on ne fait aucun contrôle, on prend les dons et puis basta quoi. Alors que soi-disant, à Lyon, c'est contrôlé, on vérifie le statut psychologique, etc. pour être sûr que la personne, elle est viable quoi. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on a rendez-vous en décembre avec la psychologue. Moi, entre-temps, je dois faire une batterie d'examens comme si j'étais infertile.
Ah ouais.
Parce qu'il y a ça aussi. Et avec les merveilleuses questions, bien sûr. Ah, vous essayez depuis combien de temps de tomber enceinte et tout ? Bah, en fait, je ne peux pas essayer parce que j'ai une compagne, quoi.
Ouais. Bah, oui, c'est compliqué.
En fait, tu n'as pas ton mignotte à chaque rendez-vous médical. C'est un truc
en
de
plus.
Fou.
Ouais. Et en plus des examens, je ne sais pas si pour toi, ça a été le cas, genre l'hystérosalpingographie.
Ouais, ça, il faut arriver à le prononcer. Moi, j'ai lâché l'affaire. C'est un truc à rallonge.
C'est un truc, je ne suis pas douillette, mais alors là, j'ai cru que j'allais mourir. Quoi,
mais c'est quoi ? Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, concrètement, en fait, c'est une radio, mais c'est comme si on était chez le gynéco, donc on n'a rien sur soi, et on nous injecte un liquide pour savoir si notre utérus est étanche.
Ouais, en fait, ils regardent les trompes,
si elles sont bouchées,
l'utérus, etc. Donc, en fait, en plus, c'est un produit qui ça te provoque des contractions, en fait, en gros.
Oui.
Et donc, en fonction des personnes, il y a des personnes pour qui ça ne va pas du tout être douloureux. Moi, je suis arrivée là-bas parce que j'avais lu des choses horribles sur l'examen. Et en fait, ouais, effectivement, ils ont commencé. Moi, je leur ai dit, c'est bon, j'en veux plus, arrêter tout.
Ah, mais t'as souffert du coup ou t'as pas souffert ?
Ah, moi, j'ai souffert, mal aussi, okay.
Ouais, c'est un examen, je me suis renseignée, ma tante était radiologue, et elle m'a dit, il y a une chance sur cinq qu'il y ait des nanas qui s'évanouissent. Quoi,
pour ah oui, carrément. Et ouais, en plus, on ne prévient pas avant. Enfin, on peut pas.
Bah, moi, je me suis dit, ça va être une échographie pelvienne ou un truc comme ça. On me donne un cathéter qui fait la taille de, je sais pas moi, un bâton ouais. de 30 cm. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et non, mais c'est hyper douloureux. En plus, le stress, parce qu'on ne connaît pas l'examen. Mmh. Donc forcément, contraction plus. Mais ça va bien se passer, madame. Oui, bien sûr. Oui.
Ils ne t'ont pas expliqué ce qu'ils allaient te faire?
Pas vraiment, non. Et puis en plus, j'ai dû repasser l'examen parce que du coup, les images n'étaient pas bonnes. Il y avait suspicion que j'avais une trompe bouchée et finalement, non. Donc j'ai dû repasser l'examen. Alors j'y suis allée un peu à reculons, mais tout allait bien. Et après ça, bien sûr, on a juste plus envie de passer d'examen.
C'est clair. Du tout.
Mais voilà. Et
donc, cet examen, tu le passes quand exactement? Tu le passes parce que tu dis que donc, pour le premier rendez-vous, t'as attendu 5 mois, du oui. coup c'est en avril 2022.
Oui, c'est ça.
Et le prochain rendez-vous qu'on vous donne pour le psychologue, c'est en décembre.
Ouais, c'est en
donc,
décembre 2022.
Il y a pratiquement un an qui s'écoule entre votre premier rendez-vous et votre troisième.
C'est ça.
Enfin, mais c'est... Là, t'as le temps de...
En plus, c'est des examens à des moments précis. Je ne sais plus pour l'hystérographie, ouais. mais ça doit être au cinquième jour des règles. Il y a des prises de sang aussi, c'est entre le deuxième et quatrième jour. Okay. Enfin, il y a tout voilà. un... Il y a les échographies aussi pour compter les follicules, pour savoir à peu près notre type de réserve ovarienne, si, tu ouais, me dis si ça, je me ouais. trompe, hein, qui doit être fait aussi pareil sur un temps en particulier de notre cycle. Et du coup, c'est... moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai espacés parce qu'à chaque fois, j'ai fait les moins pires, je pense, au début, et puis après, j'ai fait l'apothéose, quoi. Là, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va.
Donc là, on est rendu à quoi? Là, on est chez le gynéco. Il est en... Attends, là, je me suis perdue. Le dernier examen que tu as fait, là, qui est imprononçable, c'était quand, ça?
Le mot de Scrabble, là.
L'hystérosalpingraphie. Ça, je l'ai fait. Oh,
c'est un
entre...
peu quelque part, salpingographie.
Ouais, un truc comme ça.
Même entre vous, vous savez. Non,
c'est l'enfer.
Moi, je dis l'hystérographie, comme ça, c'est plus simple, en fait. Je ne sais plus, j'ai dû le passer entre avril et décembre, mais deux fois, du coup. J'ai dû le passer une fois en juillet et peut-être la deuxième fois en octobre, quoi.
OK, donc après ça, il te donne les résultats?
Oui.
Et après, Next Step, c'est quoi?
Eh bien, Next Step, moi, j'envoie tous ces résultats au gynécologue qui m'a été soigneusement choisi et changé entre-temps, bien
sûr. Tu as le droit de le choisir, le gynéco?
Alors, j'ai le droit de le choisir à Lyon. Il y a un professeur qui s'occupe de ça. Je ne veux pas le citer, mais il y a un coût.
Si tu le choisis, il y a un coût.
Il y a un coût et ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ce qui fait qu'une insémination, c'est 2 000 euros, une FIV, c'est 4 000 euros.
Ouais.
Voilà, parce que c'est un professeur.
Ok.
Donc du coup, j'ai préféré qu'on me donne celui qui m'a été dédié et changé. Là, je vais passer au troisième gynéco. Donc concrètement, en décembre, on rencontre le psychologue, toutes les deux. On nous pose différentes questions. Pourquoi la PMA? Quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un enfant? Pourquoi vous avez décidé plus l'une que l'autre de porter l'enfant? Est-ce qu'on va le dire aux parents? Est-ce que nos familles sont au courant? Et aussi, est-ce que par la suite, si l'enfant, il y en a un, est-ce qu'on lui expliquera qu'il viendra d'un don? Comment on va l'expliquer, etc.
Okay. Ils veulent tout savoir, quoi. C'est une inspection de tous vos
vies. Mes questions, ils font ça aussi avec les couples, avec les couples hétéros, les femmes seules?
Je suppose.
Ouais. Ok.
Je suppose, après ça, malheureusement,
j'ai un couple de potes hétéros, ils ont fait un parcours PMA, etc. Parce qu'ils n'y arrivaient pas, on ne leur a jamais imposé un rendez-vous psy, quoi.
Ouais.
Donc, est-ce que c'est c'était que parce dire. Que... Voilà, donc, après, est-ce que c'était parce que c'était cette gynéco en question? Et j'en sais rien, tu vois, mais...
C'était récent aussi, ou c'est...
Ouais, c'était l'année dernière.
L'année dernière, clairement. Ok, donc, ok.
Ouais, mais du coup, ils ne sont peut-être pas passés par un don.
Bah, je pense que c'est eux deux, en fait, et que ça ne fonctionnait pas, et que du coup, ils ont dû prendre ses gamètes à lui. Et après, je ne suis pas rentrée en détail avec eux, mais je pense que c'est ça.
Je pense que
mais...
c'est ça, en fait. C'est le fait qu'il y ait le don d'un tiers, je suppose, anonyme, qui a ce questionnaire, entre guillemets, et qui va permettre de valider notre dossier, en fait.
Parce qu'elle peut, en plus, cette personne, ne pas te valider sur des critères qui peuvent être... aléatoire, en fait.
Exactement.
Ou discriminant, en fait. Enfin, elle n'a pas intérêt à être discriminante, parce que là, bon, ça sera... Mais c'est clairement possible.
Tu as des échos qui sont discriminants. Ouais, ouais. Enfin, moi, franchement, quand j'entends les histoires autour de moi, enfin, tu lis même des articles de blog, des podcasts, etc., tu as des gens à qui on dit qu'elles sont trop grosses, d'autres, elles sont trop vieilles, d'autres, elles sont trop jeunes. Enfin, il y a eu une histoire comme ça, il n'y a pas très longtemps, où il y a une personne qui a témoigné en disant, on m'a dit que j'étais trop jeune et que donc, j'étais pas prioritaire. Enfin, tu vois, c'est un peu... Et de la même façon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Cindy. Moi, j'avais entendu aussi en France, et c'était un peu que la deuxième personne, avait aussi les examens médicaux, à minima la prise de sang à passer.
Exactement.
Ouais, oui. C'est ça. Ce qui oui, considère oui, vraiment que l'utérus est interchangeable, n'est-ce pas ? Donc en fait, si la personne qui est censée porter ne peut pas porter pour des raisons médicales, etc., bah, la c'est deuxième peut être porte. Considérée comme. Voilà,
exactement. Oh là là.
Donc la personne qui ne porte pas doit suivre aussi un parcours.
Des examens, ouais.
Ah, ça, même
non, pas les mêmes. Que attends, des prises là, de sang. C'est... Non, non, parce là, que je pense que sinon, elle m'aurait laissé tomber.
Alors... Ah oui, ben.
Fais-le tout seul.
Non, non, juste les prises de sang, ça c'est déjà beaucoup. Pas mal. Hein, donc, ouais. Okay, okay. Non, non. Et en fait, après ça, eh bien, du coup, il faut attendre que notre dossier passe en commission et attendre la validation. Là, on est en mi-décembre, donc on passe toutes les périodes des fêtes de décembre 2022 avec cette attente interminable de savoir si notre dossier y passe. Et puis, mi-janvier, bah, j'appelle le SECOS parce que je n'ai pas de nouvelles. Et ils me disent, bah, si votre dossier est passé, Madame Porretta, maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous avec le biologiste.
Et pourquoi on ne vous l'a pas dit avant ?
Eh bien, je ne sais pas.
Et donc là, on a combien de temps depuis la première prise de décision PMA à cette étape-là ?
On a un an et deux mois.
Un an et deux mois, OK.
Voilà. Donc, moi, j'ai appelé le biologiste sur Lyon, j'ai eu un rendez-vous fin janvier, sachant que, j'oublie de préciser, pour tous les rendez-vous, il faut que les deux soient présents. Donc, pour X raisons, moi, ma compagne travaillait à l'étranger, à l'époque en Autriche, eh bien, il fallait que je bloque les rendez-vous pile quand elle était sur Lyon, parce que sinon, on me refusait le rendez-vous, en fait.
OK.
Même si c'était juste des rendez-vous type administratif, hein, mm-hmm. mais c'était donc... refusé.
Wow.
Voilà, après...
Parce que quoi, ils considèrent que s'il manque une personne, c'est que vous n'êtes pas assez sérieuse pour ou,
exactement.
Comme si vous prenez ça à la légère, quoi, en fait.
C'est ça.
Non, mais il y a quand même beaucoup de jugements tout le long de ce parcours, j'ai envie de te dire. Donner, ah ouais. Bon.
Oui, c'est comme... Limite, j'ai l'impression que c'est comme si on vous faisait une fleur, quoi, et donc vous avez intérêt à être aux ordres et à faire toutes les régulations nécessaires pour... si vraiment vous voulez cet enfant, quoi. Ou jusqu'à... On dirait qu'on vous pousse jusqu'à savoir combien est-ce que vous voulez vraiment l'enfant, quoi.
C'est ça.
Ouais, puis je pense qu'il y a aussi ce côté un peu de charge mentale et puis de pression, tu vois, de se dire, en fait, ils sont en train de juger si vous ou non, on va être des bons parents.
C'est ça.
Et c'est ça qui est horrible, en fait, de se dire, enfin, nous, c'était aussi rédhibitoire, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait à l'étranger, tu vois, au Portugal, ils nous ont mis une psy à dispo, mais c'était après le premier échec. C'est-à-dire qu'en fait, on a été contacté, a dit bonjour, bah, je suis à votre disposition, ça n'a pas fonctionné, peut-être que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'accompagnement, etc. Donc, c'était pas le. Est-ce que vous allez raconter à votre enfant comment il a été conçu ? Bah, enfin, pardon, on est deux femmes, on ne va pas cacher les choses. voilà. Mais tu avais ce côté quand même très... ouais, enfin, ce côté vraiment pression. Et les questions au SECO, ça, moi, enfin, ce que j'ai entendu, c'était quand même... tu as l'impression de devoir te justifier de pourquoi tu veux un enfant, comment tu vas l'élever, comment tu vas lui dire... Enfin, moi, je trouve ça horrible et violent, en fait, parce que tu n'as pas à te justifier. Et probablement, il y a des gens qui se lancent en parcours PMA en France qui, aujourd'hui, n'ont pas complètement pensé les choses... Non plus, enfin, y a des choses qui changent aussi au fur et à mesure de la relation. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, pas de dire. Ça relève de l'intime, en fait. Ça nous regarde, nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire à notre enfant plus tard, en fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait répondre à des psychologues sur le pourquoi du comment. Ça ne regarde que nous, quoi.
Et tu n'avais pas la barrière de la langue au Portugal ? Enfin, c'est peut-être une appréhension que certaines personnes peuvent avoir aussi.
Toute l'équipe, ça, c'est un truc aussi. On m'a beaucoup posé la question, genre, mais attends, comment tu fais pour te faire comprendre ? Tout le monde parle français.
Ah ouais ?
Dans les cliniques, ouais. En fait, si tu veux, ils ont... En fait, tu as une personne référente qui s'occupe de ton dossier. Et en fonction de ta nationalité, ils te mettent la personne qui parle ta langue.
Oh, waouh, ils sont adaptés, ils sont organisés.
C'est bien,
non, mais attends, au Portugal, en fait, ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans que la PMA, elle est aucun problème.
En Espagne, en Espagne et en Belgique, non, c'est les trois pays.
Je crois. Il me semble que c'est ça. Belgique et Espagne. Ouais. Espagne et Portugal, c'est sûr, ce qui est quand même dingue par rapport à la religion du pays, etc. Mais en fait, pour eux, c'est un business aussi. Donc en fait, c'est. Ouais, donc on n'a pas eu besoin, enfin jamais, à part une fois, parce que la personne qui nous suivait n'était pas là, on a dû parler anglais une fois, et c'était avec la personne du labo qui nous a appelé, parce qu'en fait, quand on a fait, quand ils ont mis les embryons en cellule, etc., ils nous ont appelé tous les jours, pendant 5 jours, pour nous dire, il y en a encore 6, ah là, il n'y en a plus que 5, machin, tout, parce qu'en fait, ils voulaient qu'on soit dans le process, etc., ce qui est quand même super cool, et là, c'est la seule personne qui nous a parlé anglais, quoi.
Okay,
mais sinon, français, à
chaque fois. Et toi, on te prévient comme ça, alors que toi, on t'a dit, il a fallu que t'appelles pour savoir où t'en étais dans le dossier, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, et puis après, ce qui s'est passé par la suite, c'est que on a pris le rendez-vous, pardon, avec le biologiste, et là, c'est pareil, c'est un rendez-vous administratif, très concrètement. Il prend la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, notre taille, notre poids. On ne sait pas trop comment il va choisir, mais c'est lui qui va quand même choisir qui sera notre donneur. Alors, eux, ils sont intrusifs pour nous poser les questions. En revanche, nous, on peut toujours pas poser de questions.
Ah ouais, ok.
Donc, parce que t'as peur en plus de d'être la personne détestable pour lui et qu'ils disent ah bah celle-là on va leur foutre.
Ah oui. T'as intérêt à ce que vous aimiez bien, enfin vous ayez une bonne entente parce que sinon t'as peur qu'ils disent oh mon Dieu il nous aime pas, il va nous mettre. Enfin, il faut pas penser comme ça non plus. Mais
non,
je veux dire,
c'est vrai qu'il y a
pas de confiance en fait, ouais.
C'est évident.
Et du coup, à partir de ce rendez-vous-là, donc il nous explique moi j'ai eu le droit à 4 inséminations et j'aurai le droit à 2 FIV. Donc, il m'explique un peu comment ça va se passer, qu'ils vont choisir un donneur. Et là, à nouveau, il y a une attente de 6 mois. Pendant ces 6 mois, en fait, ça nous laisse le temps de faire le fameux RCA pour le ramener au mois de juin pour dire, voilà, on a fait les documents au niveau du notaire. Donc, c'est quand même un document qui est avant la conception.
C'est quoi le RCA, pardon?
C'est la reconnaissance conjointe anticipée. Oui,
ouais, c'est okay. Ça. Que, du coup, en plus, si je peux me permettre, je trouve que ce n'est pas top parce qu'au final, si on n'a pas d'enfant, c'est un coût entre 400 et 600 euros, ça dépend les notaires. Ça veut dire qu'on a fait un document qui n'est valable en rien si on n'a pas d'enfant.
Ouais. Mais, et qui, en plus, légalement, je crois qu'il est valable 4 ans, non?
Oui, c'est ça, 4-5 ans, je crois. Ouais.
Donc tu as 4 ans pour le faire. En fait, c'est comme le permis de conduire. Genre, tu sors ton truc et t'es...
C'est ça.
Et okay. Il est valable que, enfin, c'est important de le dire parce que je pense que faut le savoir, mais c'est valable que pour une grossesse.
Oui.
Donc en gros, tu vois, nous si on veut un deuxième enfant, faut retourner chez notre notaire pour refaire une reconnaissance conjointe anticipée. C'est pas valable pour le couple ad vitam aeternam.
Et ça, c'est pas remboursé.
Non. En revanche, le bon truc, c'est que si il y a des jumeaux, c'est valable.
Ah
ouais, ouais, ça faut prier d'avoir des jumeaux. Du coup.
Moi, je tiens à avoir des jumeaux, donc écoute. Ça.
Ouais, on n'aurait pas dit non plus.
Bah,
on s'est fait deux d'un coup. Et puis,
Nous, on est des FIV hein, pour le coup.
On est des FIV des
années
90.
Ouais. Les années 90, nos parents,
ça
ils ont été.
Pendant très longtemps, des bébés éprouvettes. Les bébés éprouvettes.
Oui, ça, oui ils appelaient ça comme ça.
Ouais, et c'était assez mal vu, il me semble.
En Belgique.
Parce que maman, du coup, je pense qu'elle
devait avoir les trompes bouchées ou un truc comme ça. Et voilà, c'était pour la petite
en Belgique, du coup. Ouais.
Donc, ouais, on est quand même des. Nous, on est issus de la PMA aussi, quoi.
Ouais, ouais, on est issus de la PMA.
Mais on a été fait, enfin, conçu en Belgique, du coup. Okay. Voilà, tout est dit.
Tout est dit.
Pour la petite histoire, on a retrouvé le docteur qui nous a. J'allais dire, qui nous a créé comme si on était Frankenstein, mais qui s'est occupé de nous. Et on a retrouvé une personne à l'université, dans notre université, qui avait la même histoire que nous, avec le même docteur.
Tu sais que le docteur, il s'appelait le docteur Amour quand même. Hein.
Ouais, non, c'est aussi. Vrai.
Ouais, je jure que c'est vrai.
Ça ne s'invente pas. Ouais.
Donc, docteur voilà. Amour, c'est trop chou.
C'était pour la petite anecdote. Voilà, on retourne sur vous. Donc des jumeaux.
Bah oui, si on peut, hein, ce serait bien. Donc du coup, on fait nos papiers RCA, etc. Et en juin, bon, notre dossier est complet. Cette fois-ci, prochain essai. Donc essai en juillet, qui est malheureusement un échec. Ensuite, alors je tiens quand même à préciser, sur Lyon, même si je n'ai aucun problème médical, je suis ultra stimulée. C'est-à-dire qu'à chaque essai, je dois faire des piqûres, prendre des médicaments.
Même pour une IAD ?
Même pour une IAD.
Mais c'est vachement lourd comme traitement quand même pour une IAD. Enfin...
Eh bien en fait, j'ai eu des doses de Benfola. Je ne sais pas si ça t'a connu, toi aussi.
C'est
fait,
quoi?
Eh bien, en fait, c'est des piqûres qu'on doit faire le soir entre 17h et 19h, tous les jours pendant 10 jours à peu près, c'est ça? Dès le début des... Enfin, au troisième jour du cycle, pardon. Et...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
En fait, c'est pour stimuler les ovocytes, les follicules, pour être sûr qu'il y en a un qui soit mature. Sauf que n'ayant aucun problème médical, moi je leur ai demandé, je leur ai dit, mais pourquoi vous me donnez autant de médicaments? C'est comme ça, c'est la procédure de toute façon.
C'est pas contre-productif
ça? Parce que moi c'est ce qu'ils m'ont donné pour la FIV typiquement. Parce qu'en fait il fallait récupérer le maximum d'ovocytes et donc du coup ils m'ont stimulé beaucoup pour ça. Donc en fait bah, tu prends ces piqûres-là pour te stimuler et après au bout d'un certain jour, moi j'ai dû m'en faire d'autres. Donc j'en avais dans le ventre et dans la cuisse pour bloquer l'ovulation. Oui. Pour s'assurer, pour
le
s'assurer en fait.
Ouais.
Oui. Vous devenez pro des jargons.
Ah ouais, non, mais ça. Et puis des piqûres, enfin, tu vois, moi je suis infirmière demain, il n'y a pas de problème, tu vois. Wow. J'avais trop peur de me piquer, puis en fait, tu fais la première, après tu dis, ok, on y va, quoi. Et, mais ouais, t'as ça. Mais moi, j'ai eu ça pour la FIV, j'ai pas du tout ça pour l'insémination.
Enfin, on rigole, mais c'est nerveux parce que c'est surtout. Là, rien que nous en parler, là, j'ai l'impression que la pression mentale de couple, physique, tout, enfin, c'est. J'ai envie de dire, c'est un cauchemar, quoi. Mais bah, ouais. J'ai pas non plus envie de dissuader les gens de faire une PMA, mais c'est
non, mais un peu du combattant. Entre parenthèses, en fait, dans le sens où, tu vois, les piqûres, comme ça. Enfin, tu vois, en plus, moi, j'ai eu ça juste pour la FIV. Donc, avant, j'avais des cachets à prendre pendant mon cycle, en fait, à 5 jours d'affilée. Et puis, c'était juste un cachet. C'était pour les IAD. Ça suffisait. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comme tu as les piqûres à heure fixe, etc., tu mets ta vie entre parenthèses aussi. Mmh, par rapport, tu peux pas être hors de chez toi. Ah, parce que, en fait, tu fais pas une piqûre dans un bar, par exemple, tu vois.
Ah, si, donc, c'est fait.
Ah, t'as fait.
Je l'ai fait dans le quartier du Marais.
Bravo, bravo, bravo. Bon. J'aurais pas osé.
C'est un homme qui m'a appris à tricoter et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein.
Mais en vrai, c'est fascinant parce que je pense que la plupart des personnes aujourd'hui, conscientes ou non conscientes, elles se disent « Ah ben, il y a la PMA, c'est bon, vous pour les femmes lesbiennes, vous pouvez avoir des enfants », mais elles ne s'imaginent pas du tout le parcours et les dingueries que vous êtes en train de nous raconter
non, mais surtout,
dans le processus. Quoi,
on
pour
a
avoir,
un an et demi, là, non ? Entre le moment où tu t'es décidé,
loin
là, on a...
d'avoir fini.
Ouais, on est à un an et 8 mois à peu près au premier essai.
Ok.
Ouais, c'est ça. Et après, premier échec, bon, je l'ai très, très mal vécu. Ils ont continué à me donner des doses. Et là, moi, je fais partie des gens qui a fait trop de stimulation. Donc, trop d'eux, eh bien, on stoppe tout pendant 2 mois. Donc,
trop de stimulation. Mais oui. C'est eux qui t'ont mis sous ça, finalement.
C'est eux qui m'ont mis sous ça, oui. Donc, parce qu'ils estiment qu'au-delà de 3 follicules, ça peut être une grossesse à risque. Donc, ils m'ont stoppé le processus parce qu'en gardant la même dose, ils se sont rendus compte que j'en avais 4, je crois, en septembre. Donc, septembre, octobre, rien. Et puis après, on a repris les essais avec une dose à peine plus faible, novembre, décembre et janvier. Et janvier, c'était un positif qui s'est terminé en négatif. Donc maintenant, je vais passer en FIV.
Ok, ok. Okay. Voilà. Et tu sais, t'as un peu. Ouais, non, bien sûr. T'as une idée un petit peu du délai là, pour la FIV, etc.
Alors, j'ai rencontré le docteur la semaine dernière, le jour de mon déménagement, parce que j'ai changé de gynéco entre temps, bien sûr. Hein,
encore,
c'est le troisième. Ouais.
Et que t'as choisi du coup ou qu'on t'a imposé ?
On m'a imposé.
Donc, chaque fois, un gynéco différent qui doit reprendre un dossier qu'il ne connaît pas.
C'est ça.
En termes humains, c'est top.
Bah oui, bah oui. Mais et en plus, tu peux pas choisir homme-femme. Enfin, non.
Alors,
parce que parfois, tu dis peut-être que c'est moins discriminant si c'est.
Moi,
une femme,
j'ai pas demandé. Non. Mais là, c'est un monsieur et ça me va.
Ok.
Honnêtement, ça me va.
T'es à l'aise.
Bah après, ayant vu, je pense la moitié des internes de Lyon plus au moins 3 gynécos sur Lyon, je me dis ça va le faire. Honnêtement.
Wow. T'as des critères bien précis. Du coup, maintenant, tu sais à quoi t'attendre, quoi.
Oui,
aussi.
C'est ça. Mais oui, là, j'ai un rendez-vous à nouveau avec un anesthésiste. Je dois refaire des examens, des prises de sang pour être sûre que ma réserve ovarienne est encore bonne parce que j'ai une réserve apparemment d'une gamine de 25 ans, donc tant mieux.
Et t'as quel âge ?
Et j'ai 36 ans. Okay. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais mettre sur pause pour le mois de mars parce que je viens d'arriver sur Paris. Mm-hmm. Et puis, on reprendra les essais en avril.
Ok.
Est-ce que pendant tout ce temps, tout ce processus dans l'une pour l'autre, est-ce que votre charge mentale, vous trouvez qu'elle est plus affectée que celle de votre compagne ? Est-ce que c'est dur aussi pour elle de vivre ça à vos côtés, même si c'est pas elle qui doit faire tout ce que vous devez faire ?
Alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, et je dis pas ça voilà, parce que c'est ma femme, mais en vrai, ça a été un grand, grand, grand soutien parce qu'en fait, elle a fait plein, plein de recherches avant moi, en fait. Donc, elle était au courant de plein de choses sur les procédures, etc. Et j'avoue que du coup, en fait, elle a pris beaucoup de charge mentale, elle, de son côté. Donc, on a divisé, même après, avec Charlie, enfin, tu vois, elle prend beaucoup. Et du coup, je trouve que il y a cette conscience aussi de ce que ça, enfin, du parcours. On est à deux dans le parcours. Et du coup, elle a vécu, elle aussi, les piqûres. Elle a vécu, elle m'a vu sortir du bloc après la ponction d'ovocyte. Elle m'a dit, mon Dieu, on est au Portugal, qu'est-ce qui est en train de t'arriver ? T'es pas bien, on est dans un pays étranger, que j'appelle tes parents, comment on fait ? Mais, je pense que, je dis pas ça, je pense, je sais pas si c'est la généralité, Mais je trouve qu'en fait, entre couples de femmes, on est beaucoup plus alerte, je pense, de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. On se lance dans un parcours qui est extrêmement difficile. Donc, on sait par quoi on va passer. Et je trouve que du coup, il y a un soutien naturel qui se crée parce qu'en fait, on le fait à deux. Quoi. C'est pas, et je suis assez admirative pour être passée par ce parcours-là. Et pour les femmes qui le font seules, c'est une charge mentale. C'est des contraintes, mais en fait, toutes seules. C'est moi, je vraiment chapeau parce que enfin, il faut vraiment être bien entouré, bien entouré. Et moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Elle a été vraiment top. Enfin, elle a pris beaucoup, beaucoup de charge mentale. Et du coup, j'ai pas eu l'impression d'être fatiguée comme j'aurais pu l'être si j'avais pas eu quelqu'un d'aussi impliqué dans le processus aussi, quoi.
Et toi, du coup?
Nous, ce qui était plutôt difficile, c'est que elle était à distance, donc. Ah. En fait, elle a regretté à chaque fois d'avoir pas été là pour quand on a eu les résultats. Mais sinon, elle était très impliquée. Et moi, je me suis sentie soutenue. Après, j'ai une famille aussi très présente, famille d'Italiens. Donc forcément, j'ai été très soutenue par ma famille, mes amis, mes collègues de boulot. Parce qu'en fait, tout le monde suivait ce qui se passait. Quand ils ne me voyaient pas au travail, ils se disaient, ça y est, elle est partie en PMA.
Partie en PMA.
C'est plutôt chouette parce que c'est vrai que c'est important de le souligner en fait, à des gens. Enfin, tu fais un choix aussi quand tu rentres en parcours PMA. Mmh. Soit tu le dis à ton entourage, soit tu ne le dis pas. Et en fait, tu as vraiment deux écoles là-dessus. Oui. Et je trouve que c'est important. Enfin, après, c'est un avis qui est très personnel. Moi, j'ai trouvé ça très important de le dire. Déjà parce que c'était à l'étranger. Donc, quand on devait s'absenter, etc., enfin, je ne me voyais pas ne pas dire à nos familles respectives en fait, qu'on était à l'étranger s'il arrivait quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même super délicat.
Normal, ouais.
Et puis, parce qu'on avait envie de les impliquer. Parce qu'aussi, on considérait, nous, enfin, en tout cas, que si c'est un échec, il faut qu'on puisse en parler aussi. Parce que du coup, je trouve que de garder ça pour soi, enfin, nous, les deux premiers échecs, c'était important de pouvoir dire ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Parce que du coup, tu rentres dans un truc où toi, tu prends sur toi, etc., avec tes proches, s'ils sont pas au courant, parce qu'il faut montrer le truc de façade, tout va bien, etc. Alors que je trouve que c'est vachement libérateur d'en parler quand on peut le faire. Après, c'est vrai que toi, t'as été au boulot, moi, c'est pareil, ma manager proche, entre guillemets, savait, les autres non, mais je trouve que c'est important de... Ouais, quand t'es soutenue comme ça au quotidien.
Moi, je pense que c'est important. Après, je peux comprendre les deux écoles, effectivement, ça dépend aussi les rapports qu'on peut avoir avec les personnes. Moi, j'étais dans une équipe où j'ai eu des plus que des collègues, en fait, c'est des amis, d'autres personnes qui sont dans des parcours plus ou moins similaires pour d'autres problèmes de fertilité. Et en fait, d'en parler, justement, déjà, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'en fait, il y a d'autres personnes dans notre cas de figure, qu'on se rend compte qu'avant, c'était tabou. Et au final, moi, comme tu as dit, c'était libérateur d'en parler. Puis je me suis sentie soutenue quand ça n'allait pas bien. Les gens me savaient pourquoi et je n'avais pas besoin de me justifier plus. En fait, on me sortait la tête de l'eau, on me changeait les idées et ça me faisait du bien, en fait.
Ouais, puis ne serait-ce qu'au boulot, en fait, comme les examens, il faut vraiment être disponible aussi. C'est-à-dire que tu te rends disponible pour des trucs, tu vois, les examens. Moi, je sais que je pense que c'est pareil en France quand tu fais les essais, mais typiquement, après le traitement, tu as rendez-vous chez gynéco, en fait, pour voir un petit peu, faire une échographie, voir comment sont tes follicules, etc. Et puis, en fait, moi, ça m'est arrivé le lundi à 10h d'envoyer les résultats aussitôt au Portugal. Et qu'on dit, rendez-vous mercredi matin, 10h à la clinique. Pour l'insémination. Donc en fait, on est lundi, il est 16h parce que tu as passé ton examen le lundi matin, tu as tes résultats, t'envoies tes résultats et t'attends que la clinique au Portugal ouvre tes résultats pour les interpréter. Et du coup, le lundi à 18h, tu te retrouves à booker avion, hôtel, machin, etc. Donc moi, tu vois, ma manager direct, en fait, je lui avais dit dès mon entretien d'embauche, je lui avais dit, je sais que j'ai aucune obligation légale de t'en parler parce qu'en fait, c'est très personnel, mais en fait, je vais devoir m'absenter au dernier moment. Et moi, je veux travailler dans un endroit en fait, où c'est OK et où je peux être out et moi-même sans aucun problème. Quoi. Donc, elle a été top. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne disent pas qu'ils sont en parcours PMA, etc., c'est super complexe, en fait, parce que tu n'es pas accompagné. Ça joue forcément sur ton travail aussi et sur ton bien-être, en fait, tout simplement.
Tu as l'impression d'avoir une charge d'un secret que tu gardes. Quoi. Alors, c'est un énorme secret... presque plus, horrible à cacher. Quoi.
Ce qui est difficile aussi, c'est que tu vois, dans ton cas, c'est la seconde insémination qui n'a pas marché, comment tu vis c'est dur aussi parce que tu as une charge mentale de tout le processus. Tu sais qu'à chaque fois, c'est des mois et des mois et des mois. En plus, on te dit que ça ne marche pas. Donc, toi, comment tu le vis ça, quand tu as cette nouvelle, tu vois?
Ah, quand c'est un échec?
Ouais.
Moi, mal. Moi, je me plonge dans le chocolat et les jeux vidéo, où généralement, je ne sors pas pendant 5 jours. Mais après, chacun réagit d'une manière différente. Je sais qu'il y a des personnes qui vont plus l'extérioriser. Moi, je me jette sur les cigarettes parce qu'à chaque fois, j'arrête de fumer. Et puis, par contre, je ne bois pas d'alcool, etc. depuis 2 ans maintenant.
Enfin, c'était surtout pour dire qu'il y avait une charge mentale en plus accrue parce que rien ne te garantit d'avoir finalement un enfant à la fin. Ou,
ah non.
Ouais, c'est un long parcours. Et surtout, le thème de l'adoption, parce que beaucoup de gens, du coup, disent « Mais pourquoi vous adoptez pas ?» Il y a beaucoup d'enfants qui veulent être adoptés. Vous répondez quoi à ça ?
Eh ben, qui regarde le pourcentage de personnes LGBT qui peuvent adopter aujourd'hui en France, enfin qui adoptent aujourd'hui en France, enfin, c'est terrible. C'était il y a déjà peut-être 3 ans des articles qui sortaient comme quoi on ne proposait pas en fait aux couples gays, aux couples lesbiens, aux couples queer, tout simplement d'adopter. On n'est pas en haut de la liste déjà et d'une. Moi je ne suis pas fermée à l'idée de l'adoption, j'avoue que c'était... Après, c'est encore une fois, c'est extrêmement personnel, tu vois. Enfin, je sais que moi, je ne serais pas contre adoption. Et si c'est adoption, pas forcément un bébé, quoi. On s'en fiche, voilà. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, on voulait se lancer dans ce parcours-là. Moi, j'avais envie de porter aussi. Il y a ce côté-là aussi, d'avoir envie de vivre la grossesse. Et puis, je trouve qu'en termes de couple, ça renforce vachement. Tu vois, on voulait vivre ça ensemble, etc. Bon, moi, elle ne veut pas du tout porter. Donc, si je n'avais pas voulu non plus, on se serait probablement posé la question de l'adoption. Mais là, pour le coup, on s'est dit pourquoi pas, peut-être plus tard. Mais c'est vrai que le premier, moi, j'avais très envie de porter. Ouais.
Alors, nous, on s'est posé la question pour l'adoption. Et malheureusement, au vu des questions, j'ai dit non, je suis incapable de répondre à ces questions. En fait, j'ai pris contact avec une grosse association qui s'occupe des couples qui souhaitent adopter sur Lyon. Et malheureusement... Eh bien, en fait, on ne peut pas avoir un projet consolidé si on n'est pas capable de répondre à « j'accepte un enfant qui vient d'un inceste, j'accepte un enfant qui vient d'un viol, etc. » Et en fait, on s'est regardé avec ma compagne et on s'est dit « mais en fait, je suis incapable de répondre à ces questions-là. Mmh. » Donc, du coup, l'association nous a dit « votre dossier n'est pas mature. » Donc, je vous invite à ne pas faire une demande d'adoption.
Ça veut dire quoi, pas mature, par rapport à quoi ?
Eh bien, en fait, à partir du moment où on n'est pas capable de répondre à toutes ces questions, en termes de critères, eh ben pour eux, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature pour pouvoir déposer un projet d'adoption.
Oui, parce que je pense que tu as des questions aussi d'accompagnement aussi de l'enfant derrière, parce qu'en fonction de l'âge à laquelle l'enfant arrive chez toi, il a vécu des choses, des traumatismes, etc. Il y a une question vraiment, comment tu fais aussi pour répondre aux besoins de ces enfants qui vivent ces choses-là ? Et je pense que c'est terrible. Je ne sais pas... tu vois, je veux dire en toute honnêteté, je pense qu'il faudrait beaucoup, moi, que je sois accompagnée pour pouvoir accompagner.
C'est un homme qui m'a appris à tricoter et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein.
Je voulais poser une petite question par rapport à la préparation, entre guillemets, parce que j'imagine que vous ne rentrez pas dans un processus et un parcours de PMA comme ça sur un coup de tête. Est-ce que... Vous vous êtes renseigné chacune de votre côté. Est-ce que vous avez des amis qui sont passés par là, qui ont pu vous conseiller pour vous dire « Ok, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». D'où est-ce que vous sortez des informations ? Parce que je me souviens, Fiona, nous, on s'était rencontrés justement avant tout ça. En fait, je pense que tu commençais du coup.
Ouais, j'avais commencé le parcours.
Et tu nous avais orienté, tu nous avais dit « Ah, moi, je suis un compte sur Instagram trop bien de meufs, ou je pense de femmes qui... »
Ouais, si je peux les citer.
Ouais, avec plaisir, mais c'est pour ça, ouais.
Bah, en fait, c'est Léa Kérol, et en fait, c'est Léa Capu, et son compte Instagram, c'est Léa CR. Et en fait, l'État français devrait la payer pour ce qu'elle fait. Enfin, vraiment, c'est...
Macron, si tu nous écoutes.
Bah ouais, non, mais j'espère qu'elle nous écoutera, Léa, mais elle fait un travail de dingue. Et en fait, elle propose aussi des sessions d'accompagnement. Donc nous, on n'a pas fait ça. En revanche, elle a toujours répondu aux questions quand on l'a contactée directement sur Instagram. On avait quelques petites questions, tu vois, sur RCA, est-ce qu'on peut le faire, machin, etc. En fait, et en fait, elle a fait un travail sur son compte Insta. Vous avez plein de stories et autres sur comment ça se passe au niveau administratif, au niveau médical, les a priori en fait et les préjugés sur le parcours PMA, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est expat au Portugal, donc elles ont fait leur petite au Portugal et en fait elle s'intéresse, enfin elle fait que sur la loi française. En fait, on en est où, comment ça se passe. Donc moi, j'avoue que on a trouvé ce compte après avoir commencé la procédure. Et en fait, ça a été salvateur parce qu'en fait, on avait toutes les informations réunies sur un seul compte. Et elle a édité des bouquins, en fait, un sur la PMA, donc sur le parcours PMA, etc. Donc top, en fait, t'as tout sur un seul guide, en fait. Et je pense que voilà, t'as toutes les infos que tu cherches sur le site du gouvernement que tu ne trouves pas, ou machin, etc. Donc ouais, franchement, c'était ce compte-là. Enfin, nous, il nous a fait gagner, je pense, 6 mois de recherche sur plein de choses, quoi.
Vraiment. On mettrait son Instagram pour ces personnes qui nous écoutent sur Instagram.
Mais d'accord. D'ailleurs, qui devait venir, qui viendra un jour sur le podcast. C'est juste que comme elle est au Portugal, c'est un peu compliqué de coordonner. Mais en tout cas, on est à contact avec.
Une source d'information, franchement, c'est incroyable.
Si on peut relayer, c'est avec plaisir, en tout cas.
Et toi, du coup, Cindy ?
Moi, je n'avais aucune information, en fait.
Ah, t'es rentrée comme ça ?
Oui, nous, on est rentrés à l'aveugle. On aime bien
s'aventurer.
Pour savoir comment ça se passe. Et très concrètement, après, je me suis inscrite sur des groupes Facebook. Je crois que c'est des personnes de Paris qui ont créé ce groupe et elles ont mis en place des différents groupes selon la ville où on fait notre PMA, etc. Puis à force de discuter, de prendre les informations à droite à gauche, on se renseigne comme ça. Enfin, moi, du coup, j'ai fait comme ça.
Ouais, donc c'est faux qu'il faille aller chercher les informations, qu'il faille le vivre et qu'on ne sait pas comment ça va aboutir, cette histoire, sur qui tu vas tomber.
C'est beaucoup de bouche à oreille et puis c'est beaucoup de rocos aussi. Tu vois, moi, j'ai des potes qui font en Espagne, ça ne se passe pas bien, ils veulent changer de clinique. Donc là, c'est pareil, enfin, c'est un truc... tu vois, ça dépend vraiment. Et c'est beaucoup de partage entre la communauté, en réalité, tu vois, il n'y a pas... les médias vont s'intéresser. On a combien de PMA aujourd'hui en France ? Bah ok, super. Mais derrière, il y a qui en fait ? Qui fait ces... Enfin...
Peut-être question con, mais il n'y a pas une asso qui existe par rapport à ça ? Il n'y a pas un groupe de mères ou de... Je ne sais pas, moi, pour les lesbiennes en tout cas, pour les femmes, les couples de femmes ?
Sincèrement, moi je ne sais pas. Je ne me suis pas trop renseignée là-dessus. Je sais qu'il y a le collectif Famille qu'on suit aussi. Et en fait... qui fait un travail de fou. Bah, y a un festival bientôt, d'ailleurs, à la Cité Fertile, pour les gens qui ont envie d'y aller avec leurs enfants, etc., même sans enfants. Mais,
trop bien. Quand ça
Collectif Famille, je crois que c'est le week-end du 17 mai, si je ne dis pas de bêtises. Ah, okay. Et en fait, ouais, c'est vraiment chouette. Et puis, en fait, t'as des spectacles drag pour les enfants, un truc, enfin, c'est plutôt chouette. Mais sinon, en termes d'asso, non, enfin, vraiment, on a fait vraiment les recherches de base. Et après, moi, enfin, franchement, on est tombé sur ce compte-là. Et en fait, on a arrêté de chercher ailleurs, parce qu'on avait toutes les infos, quoi.
Avant qu'on aille dans les questions des gens qui ont posé donc sur le compte notre compte Paint, j'ai une question par rapport à la méthode ROPA. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez l'expliquer, ce que c'est, pour que les gens comprennent ?
Tu veux ? Oui.
Vas-y. Si
alors, en fait, la méthode ROPA. Alors, la méthode ROPA n'est pas possible en France. C'est en fait, on peut avoir en Espagne et au Portugal aussi, je crois.
Ouais, au Portugal. Ouais.
On peut prendre en fait un œuf de notre compagne et du coup le porter. Voilà, c'est ça. Okay. En schématisant assez, on prend son œuf, on le met dans le nôtre.
Ok, donc ça c'est aussi une option qu'on peut faire à l'étranger qu'on ne peut pas faire en France par exemple.
Et à savoir que si tu fais ça à l'étranger,
c'est beaucoup plus cher.
Et hein. que tu arrives en France, c'est beaucoup plus cher déjà et d'une. Mais par contre, moi, si on avait fait cette méthode-là et que moi, à l'accouchement, c'était l'ovocyte de ma femme, en fait, c'était moi qui étais reconnue comme la mère biologique de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, en France, c'est la personne qui accouche qui est reconnue comme mère biologique. Et pas, enfin, tu vois, même s'il n'y a rien à voir avec la biologie là-dedans, tu vois, en termes de gènes, etc. Mais en fait, c'est comme ça que
mais
c'est perçu.
Ta femme aurait aussi été maman, si elle a été déclarée.
Elle aurait quand même dû faire la reconnaissance conjointe anticipée ou l'adoption. Donc elle aurait dû adopter, entre guillemets, son propre embryon. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté. C'est, voilà. Ouais.
Et même si c'est illégal à l'étranger, si tu reviens en France, tu peux quand même être considérée comme la maman ou pas. Enfin, ta famille est légale en France, j'imagine.
Ah bah en fait, tu passes par le parcours normal PMA, c'est juste que tu signes les mêmes papiers, reconnaissance conjointe, etc. Donc en fait, on aurait signé les papiers et juste elle aurait fait la même chose. Mais c'est juste que c'est absurde parce qu'en fait, ils font une loi bioéthique en mode la filiation, etc. etc. Et en fait, c'est pas entre guillemets mes gènes si c'est moi qui avais porté sur une méthode ROPA, mais c'est quand même moi reconnue comme mère biologique parce que c'est moi qui accouche.
Enfin. Ouais. Un peu logique cette histoire, mais ok.
C'est un homme qui m'a appris à tricoter et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein.
Bon, je propose du coup qu'on passe aux questions de la communauté. Sur Instagram, on vous a demandé du coup de poser vos petites questions par rapport à la PMA. Il y en a un paquet, donc clairement... Que ça,
ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. C'est un sujet qui n'est pas assez traité. Tout le monde est assez désespéré et demande aussi des comptes à suivre et tout ça. Donc, bon, on espère qu'on pourra vous donner des réponses par rapport à ça. Moi, j'en choisis un peu comme ça dans
vas-y,
le.
Vas-y, Sam.
Allez, dans le. Alors, il y en a une qui ressort pas mal. J'ai l'impression que vous en avez un peu parlé, mais vu qu'elle ressort beaucoup, je vais la poser. C'est comment comptez-vous l'expliquer à votre enfant / qu'est-ce que vous comptez ? Est-ce que vous êtes préparé à qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant, tout simplement ?
Eh bien, moi, vivant avec une scientifique, je pense qu'elle va faire un schéma, tout simplement, en espérant que ce sera un scientifique, il ou elle ou elle, peu importe. Mais nous, je pense que ça va être très schématisé le plus tôt possible. On va essayer de l'expliquer au plus tôt. En tout cas, dès que la question sera posée, on ne mentira pas là-dessus.
OK.
Et puis nous, bah en fait, on a déjà, on parle déjà de donneurs, on a déjà sensibilisé nos familles en fait sur les bons termes aussi employés en présence de Charlie, parce que du coup, c'est vrai que En fait, moi, je suis d'une famille un peu. J'ai grandi en Charente-Maritime, etc. Donc, c'est vrai que c'était un peu. Mais le père, du coup, bah non, c'est pas le père, c'est le donneur. Donc, t'as quand même un gros travail de pédagogie, etc., à faire auprès des proches qui sont moins sensibilisés aux questions. Et en vrai, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent pour lui dire sans en faire toute une histoire, tu vois. Par exemple, il y a une maison d'édition, si je peux.
Bien sûr.
Ça s'appelle Bam Badam.
Bam Badam.
Bam Badam. Et c'est génial, édition. En fait, parce que tu vas sur le site, tu réponds à plein de questions, et la personne qui a fondé ce truc-là, c'est génial parce que c'est un peu. C'est un papa, une maman, deux papas, deux mamans, plus. Enfin, voilà, coparentalité, etc. Tu réponds à plein de questions. Et en fait, elle t'édite un livre d'histoire pour enfants.
Trop bien.
Et donc, en fait, c'est très personnalisé. En fait, c'est-à-dire que tu as le prénom de l'enfant, tu peux lui laisser un petit mot dans le bouquin, c'est avec quelle méthode tu as été conçu, etc. Puis en fait, à partir de ses réponses aux questions, elle te sort une histoire, en fait.
Trop bien.
Donc, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça permet le soir de raconter l'histoire, en fait, à l'enfant sans qu'il se... Enfin, tu vois, c'est pas... Et voilà, nous, on part du principe que d'en faire une histoire, ça en fait une histoire. Et en fait, du coup, on dit des débuts et puis on répondra aux questions quand les questions se poseront. Quoi.
Et donc, les gens de la Manif pour tous qui disent un papa et une maman, vous leur répondez quoi?
Tu veux vraiment que je sois très vulgaire hein? Non, mais je trouve que voilà, on est...
C'est contre nature.
Hein. Ah ouais, c'est bon ça.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à justement la formation entre guillemets des proches, parce que c'est vrai que pour eux, pour les proches, ils peuvent se dire non mais c'est pas grave et tout, mais tout le monde peut avoir sa version des faits, et c'est vrai que si tout le monde raconte sa version de ce qui s'est passé à l'enfant, il peut être complètement étonné, surpris, plus savoir...
Et surtout que l'enfant, en fait, il peut nous poser des questions à nous, mais aussi, il peut aussi en poser aux proches. Et donc, si les proches ne savent pas quoi répondre, ils bottent en touche. Et du coup, là, ça en fait un sujet.
Exactement.
Donc, c'est vrai que nous, on a eu une grosse discussion avec nos parents respectifs pour dire, voilà, on appelle le donneur, okay. Voilà, etc. Donc, on a mis des mots, en fait, sur les interrogations des uns et des autres. Et du coup, on sait que si Charlie est gardé par ses grands-parents, on sait que normalement, aujourd'hui, s'il pose des questions... Enfin, pas tout de suite, il a 5 mois et demi, mais c'est très très précieux, cet enfant. Les enfants PMA, tu sais. Faites des conseils des PMA. Et du coup, on répondra, quoi.
Okay.
Moi, j'ai surtout une question par rapport aux douleurs. Est-ce que c'est douloureux? Il y a plein de gens qui ont posé des questions. Là, tout à l'heure, vous en avez parlé, il y a parfois des prises médicales qui sont douloureuses. Typiquement, le mot imprononçable, là.
Ouais, celui-là, est douloureux.
C'est tout.
Voilà, ponction d'ovocyte aussi, sincèrement. Mais après, ça dépend des gens, je pense. Mais après, j'étais vraiment groggy, etc. Donc, il faut s'y attendre, quoi. C'est pas tout repos non plus. C'est une anesthésie générale, tu te réveilles, voilà, tu vois. Mais, OK.
Il y a beaucoup de questions par rapport, mais je pense qu'on en a déjà parlé techniquement, de l'identité du donneur. Et beaucoup de personnes ici, j'ai pas envie de vous corriger, mais vous disent beaucoup père, et en aucun cas, je pense qu'on peut appeler un donneur, un père, techniquement, enfin, c'est pas le terme du tout approprié. Mais...
Pour moi, père, c'est quelqu'un qui va élever son enfant, qui va se lever la nuit, exactement, etc. Exactement. Tu vois,
donc, toutes les personnes qui ont écrit père, sachez que justement, c'est pas du tout le terme à utiliser. Il demande est-ce que c'est possible un jour de connaître l'identité du père ou comment ça se passe s'il y a des questions par du père, oulala, tout ce que j'aime dire. Non mais parce que je lis, mais du donneur ou comment vous pensez gérer les conversations par rapport s'il y a des questions par rapport au donneur qui viennent de l'enfant.
Eh bien, moi je pense que de toute façon, dès qu'il sera en âge ou il ou elle, peu importe, de vouloir savoir ces informations. Il faudra qu'il attende sa majorité et d'écrire du coup pour demander la levée d'anonymat. Mais je dis entre guillemets aussi parce que la personne est à même de dire non, je ne donne pas d'informations. Donc il faut quand même rester. Enfin, je trouve qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que je ne veux pas que la personne soit. Enfin, la personne. Je ne veux pas que l'enfant soit déçu du résultat, quoi.
Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez peur que votre enfant vous en veuille ?
De quoi ? Non, en vrai, nous, je sais qu'on a fait un dossier, sincèrement, il a son dossier qui est à la maison, et le jour où il y a des questions, il dit, tiens, voilà, après, c'est un parti pris, hein, c'est très personnel, mais nous, on lui donnera ce dossier en disant, voilà, toutes les informations que nous, on a récupérées à l'époque où le donneur a fait don, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, les réponses, etc., mais en tout cas, voilà ce que nous, on a récupéré. Malheureusement, il faut attendre tes 18 ans, on t'accompagnera, mais la personne peut, tu vois, donc il y a ce côté aussi de pouvoir... donner quelques informations. Et je trouve que c'est un avantage aussi quand tu as choisi, entre guillemets, le donneur, quoi. C'est de pouvoir donner ces informations-là.
On a une autre question. Ont-elles vécu des propos déplacés ou des jugements de la part des médecins ou autres pendant le processus?
Oui.
Oui, Tu veux donner 2-3 exemples parce que je trouve que
c'est bah moi c'était les examens, ça fait combien d'années que vous essayez, je l'ai très mal pris, surtout quand c'est une échographie pelvienne, qu'on est à moitié à poil sur une table, je trouve que c'est pas le moment adéquat et on sent sur leur visage qu'ils sont pas prêts quand on dit non mais en fait je suis lesbienne quoi, donc je peux pas faire autrement, et là c'est la panique à bord, on sent la petite goutte comme dans les mangas, ils sont pas bien. Et ouais, ça, moi aussi, après, ça me met mal à l'aise parce que je pensais que c'était accepté, que c'était ancré dans leur petite tête de coco, mais en fait, pas du tout, quoi.
Non, et en fait, t'as vraiment ce truc-là aussi où tu te dis, allez, ok, je vais être encore faire un coming out, on y va, on prévient. Et en fait, c'est un parcours, soit tu tombes sur des gens très bien. Moi, j'ai eu des médecins, tu vois, typiquement, la médecin qui m'a fait l'hystérosalpapographie. En fait, tu vois, tout de suite, elle m'a posé la main sur le genou, elle me dit, ça peut être douloureux, machin, elle a expliqué, elle a dit, c'est cool, machin, elle a dit, ah bah, votre conjointe, en plus, on était un peu Covid, machin et tout, donc elle me dit, c'est dommage qu'elle puisse pas être là. Quand j'ai dû me faire opérer des polypes, je pouvais être que toute seule dans la salle avec la médecin, et la médecin a été voir ma compagne dans la salle d'attente pour lui dire, tout va bien, vous inquiétez pas. Donc on a eu de la bienveillance, et puis à côté, c'est vrai, et tu vas chez la gynéco pour une échographie, et puis elle te dit, on attend monsieur. Alors voilà. Comment te dire, en fait, et en plus dans un institut qui est assez spécialisé, tu vois, tu ouais. dis, alors madame arrive.
Il se commence à madame.
Voilà, et en fait, au bout d'un moment, tu perds, enfin moi je sais qu'au bout d'un moment, j'ai plus envie de, pas de m'énerver, tu vois, mais d'éduquer les gens, je le fais en riant, parce qu'en fait, sinon, ça te rajoute un peu une charge mentale, et ça, enfin, voilà, on n'a pas le temps pour ça, en fait.
J'ai envie de demander concrètement, encore une fois, on a pas mal parlé, mais concrètement, si on devait réduire ça à 1 minute ou 2 minutes, en 1 minute, qu'est-ce que vous pensez devrait changer aujourd'hui dans le parcours de PMA en France pour l'améliorer le plus efficacement possible ?
En France, moi, j'ai pas vécu le truc opérationnel, donc ça, j'ai mes idées Joker. Parce que je vois. Non, mais tu vois, j'ai mes idées parce que j'ai les retours des copains autour et. Et des copines qui sont dans le parcours, mais c'est plutôt Cindy qui va pouvoir
complémenter par.
Moi, je pense déjà rémunérer les donneurs, donneurs, donneuses, quel que soit le type, que ça soit pour les gamètes, enfin les paillettes, pardon, et pour les dons d'ovocytes, et aussi faites de la pub, parce que moi, ma compagne travaille en université et elle m'a dit il y a aucune affiche pour demander à des personnes de faire des dons, etc. Elle m'a dit mais c'est là. Où en fait, il y aurait peut-être potentiellement le plus de personnes qui le feraient. Et on en parle, on nous donne accès sur une loi, mais il ne faut pas en parler, quoi.
Rémunérer, tu n'as pas peur ? Enfin, moi, c'est une vraie interrogation que j'ai. Hein. Est-ce que tu n'as pas peur que du coup, les gens fassent des dons pour des mauvaises raisons ?
Non, parce que je me dis, en Belgique et en Espagne, et je pense au Portugal aussi, ils le font aussi. Après, on ne parle pas des milliers des cents, hein. C'est une petite contribution pour dire merci d'avoir aidé une famille potentielle, quelle que soit la famille. Mais je pense que ça quand même permettrait, au vu des examens, au vu de tout ce qu'il y a derrière, peut-être d'inciter un tout petit peu plus. Et même si c'est que, je ne sais pas moi, l'équivalent d'un chariot de course en période d'inflation, peu importe, ça peut quand même servir.
Parce que là, on est en manque de paillettes en général, on est en manque de donneurs en général. Oui. C'est pour ça que le processus est plus long, vous pensez ?
Je pense que c'est ça.
Ils en parlaient il n'y a pas très longtemps, tu vois. Il y a beaucoup de délais d'attente parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Et en fait, là, ils sont en train d'écouler des stocks. Enfin, il y a eu quelques polémiques là-dessus, justement, parce qu'ils sont en train d'écouler des stocks qui ont quelques années. Et en fait, en termes de traçabilité, etc., il y a plusieurs problèmes comme ça aussi. Donc, c'est sûr que je pense que ça contribue beaucoup aux délais d'attente, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de demandes aussi par rapport à ce que peuvent traiter les sécousses, quoi.
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a eu la vague des femmes seules lesbiennes. On est toutes arrivées d'un coup. Et là,
en même temps, normal. Enfin, je veux dire, on n'avait pas accès avant. Forcément, maintenant, on nous dit, vous avez accès, vous ne devez pas aller à l'étranger. Enfin, même moi, j'aurais dit, écoute, on va le tenter en France, tu vois.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'ils n'étaient pas prêts.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut écourter aussi le nombre de rendez-vous ? Parce que là, on a gynéco, psychologue, ceci, cela. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire autant de rendez-vous ? Enfin, autant de...
Pour moi, non. Honnêtement, on pourrait faire tout regrouper sur une seule journée. Hein.
Ah oui, carrément.
C'est vrai, tu rentres dans le centre, en fait, tu vas voir. Enfin, tu vois, il y a des centres qui font ça aujourd'hui, tu rentres, t'as une salle numéro 1 avec je sais pas
qui. Tu ferais quoi dans une journée, du coup, serait quoi l'ordre de truc ? Genre, on voit si t'es fertile,
Gynéco, les examens, psychologue, biologiste.
Après, les examens, comme il faut les faire des jours précis, c'est un peu plus compliqué, tu vois.
Mais au moins, de voir les trois acteurs principaux, gynécologue, biologiste et psychologue.
Est-ce que pour toi, du coup, qui est en parcours en France, le psy, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas ?
Pour moi, très honnêtement, son avis, je pense me le mettre là où je pense. Et ça restera comme ça. Si elle m'écoute, la pauvre. Mais non, en fait, le psychologue, pour moi, il a servi à rien.
Bah, surtout que qu'est-ce qui va t'apporter ou te... enfin, ça peut que être un jugement de valeur finalement, non
ouais, enfin, c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça très utile quand ça... enfin, comme au Portugal, où quand ça ne fonctionne pas, on te met à disposition si tu as besoin d'en parler, etc. Mais moi, je trouve ça... enfin, je...
en fait, c'est une source de stress en plus. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'en plus, tu n'es même pas sûr de la validation après. Donc, c'est basé c'est sur quoi les critères de...
En plus, tu ne peux pas être honnête dans tes réponses. Alors, moi, je sais que j'ai une copine qui est assez militante. Elle m'a dit, en fait, je me suis retenue parce qu'en fait, les questions étaient tellement absurdes. Elle dit, mais je ne peux pas lui rentrer dedans parce qu'en fait, elle va me dire, en fait, tu ne vas pas être parent, tu vois. Non, mais tu vois, la question, comment tu vas, comment vous allez dire à votre enfant qu'il a été conçu, est-ce que vous allez lui dire, comment vous allez lui dire, en gros, enfin, les questions sur la parentalité, mais enfin, est-ce que tu poserais ça comme question à un couple hétéro qui est passé par une PMA, typiquement, personne ne va leur... enfin, ils vont pas dire... est-ce que vous allez dire à votre gamin qu'il a été fait dans une éprouvette ah bah non, en fait. La question ne se poserait même pas. Tu vois.
On a une question aussi par rapport... une personne qui demande par rapport aux personnes trans et aux personnes racisées, comment ça se passe pour elle, le processus de PMA, finalement ? Est-ce que c'est plus discriminant ? Est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de messages aussi qui nous disent qu'il y a des barrières, il y a des limites à ces personnes-là et que c'est quand même assez discriminant. Quelle opinion est-ce que vous avez là-dessus ?
Alors, je sais que au niveau des personnes racisées, le problème c'est que au niveau des dons, il n'y a pas assez de dons.
Ouais.
Donc déjà il y a ça qui fait que du coup l'attente peut être encore plus longue. Elle est déjà très longue, je sais, pour les couples hétéro racisés qui attendent un don.
Après, il faudrait que des personnes racisées puissent témoigner, etc., sur leur parcours, parce que je pense que ce serait les mieux placés pour répondre à toutes les étapes qu'elles rencontraient pendant les parcours. Mais je trouve que ouais, c'est extrêmement discriminant, parce que tu as principalement des donneurs blancs, et que du coup, ça rallonge les procédures, et qu'on ne leur demande pas leur avis non plus, tu vois. Mm-hmm. Donc je trouve que c'est un vrai sujet. Et les personnes trans et les personnes racisées ne sont pas du tout considérées, en fait, dans les parcours PMA en France.
Oui, ça, on rappelle que c'est vraiment une lutte encore aujourd'hui pour que la PMA soit ouverte à tous et toutes. Oui. Et donc notamment aux hommes trans, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire la demande. Et donc voilà, donc c'est une vraie lutte. Enfin, je dis « ils », mais même « ils », parce que les personnes non binaires aussi. Donc c'est une vraie lutte aujourd'hui qu'on doit faire passer en France et qu'on ne peut pas se taire sur ça. Et qu'en tant que communauté, on doit aussi être soudés pour toutes ces personnes-là.
Il me semble quand même qu'il y a des cas, même si c'est très très rare, mais il y a des cas d'hommes trans qui ont porté leur enfant.
Oui, il y en a un, je me rappelle plus de son prénom, j'en suis désolée parce que...
Ali, non ?
Ali, je crois, ouais, Ali, qui a été super médiatisé, etc. Justement parce qu'il a partagé son parcours, etc. Mais ça, c'est pareil. Enfin, c'était hors des cadres légaux, entre guillemets. Quoi.
Ouais.
Et vous avez un message à faire passer aux couples de femmes, aux seules ou célibataires ou en couple, qui veulent commencer justement une procédure de PMA. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Moi, je leur souhaiterais beaucoup de courage. Non, mais c'est chouette, en fait. C'est un parcours, vraiment. Enfin, moi, ça a été difficile, mais quand je vois le résultat aujourd'hui, je suis très contente que ça ait fonctionné. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et du coup, bah, c'est plein de bonheur, c'est chouette. Donc, faut pas lâcher. Et je pense que, voilà, même s'il y a des situations qui sont très discriminantes, enfin, malheureusement, on ne pourra pas éduquer tout le monde. Et que du coup, ben, voilà, je leur dis surtout d'être très bien entourés aussi. C'est super important.
Moi, je dirais accrochez-vous et ayez confiance en vous, en fait. Parce qu'il faut s'écouter, il faut être, bien accompagné, oui, effectivement aussi, ça, je suis d'accord. Mais il faut avoir confiance en soi, ça renforce aussi le couple, je trouve. Et je pense qu'après, c'est une belle expérience. Que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas, c'est une belle expérience quand même à vivre.
C'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir confiance en soi et de s'écouter, parce que c'est vrai que des fois, tu as des gens qui vont te dire les choses inverses de ce que toi, tu es en train de vivre et comment tu sens les choses. Et en vrai, non, enfin, le plus important, c'est soi-même, quoi. Il ne faut jamais faire quelque chose contre sa volonté. S'il y a un truc que tu sens plus qu'un autre, il faut y aller, quoi.
Par rapport à quoi tu veux dire ?
Ben, en fait, par exemple, tu vois, tu as des pays où, si tu le fais à l'étranger, on va t'imposer l'IAD ou la FI ou j'en sais rien, tu vois, ou des trucs comme ça, ou même la façon de simplement d'aborder ton parcours, en fait. Bah, tu vois, la façon de comment faut dire les choses à ton enfant plus tard, ou machin. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où. Les gens vont forcément donner leur avis et vont te poser des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre parce que ça ne te regarde que toi. Et en fait, bah, c'est OK de ne pas répondre aux questions. Et je trouve qu'il faut partager que ce qu'on a envie de partager parce que sinon, ça rajoute vraiment de la charge mentale et du négatif dans un parcours qui est déjà bien assez complexe.
Franchement, merci beaucoup surtout d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est quand même aussi rentrer dans votre intimité, dans des choses qui peuvent être douloureuses ou qui peuvent être lourdes, des charges mentales et tout ça.
C'est précieux comme témoignage et même en tant qu'homme, même homme gay, je précise justement, on n'est pas à côté de la plaque, mais on n'est tellement pas au courant du processus. On ne s'imagine pas du tout la charge mentale. On s'imagine... Enfin, j'ai l'impression que pour entrer là-dedans, il faut une force mentale incroyable. Tout ça pour avoir... Enfin, tout ça pour avoir un enfant. C'est pas ce que je veux dire. Tout ça pour un enfant. Ça, oh là là. Vraiment, vous êtes sûr. Non, mais c'est... on ne s'en rend pas compte du tout. Donc, c'est très précieux comme témoignage. Ouais. Donc, on espère que pour les hommes qui nous écoutent, rendez-vous compte. Et pour les femmes aussi qui nous écoutent et qui ont beaucoup de questions, on espère que ça répondra à quelques-unes.
Ne perdez pas confiance. Toutes les personnes qui veulent commencer un parcours PMA, on espère qu'on ne vous a pas dissuadé à travers ce podcast.
Non, mais c'est chouette.
Ouais, c'est plus à terme d'information. Et je pense que justement, avec Paint, on va essayer d'avoir plus de témoignages.
Ouais. On s'engage à en parler plus parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on existe et c'est vrai qu'on ne fait pas assez de sujets là-dessus.
Ouais.
Après, on sait qu'il y a des familles qui ne veulent pas trop non plus se montrer et on les comprend.
Ouais.
Mais on s'engage justement à en parler plus parce que c'est quand même.
On s'engage, on dirait un truc présidentiel, c'est
dans. Non, mais c'est vrai, parce que. Non,
allez, les prochaines, c'est dans pas longtemps.
Allez, on se présente.
Voilà. En tout cas, merci encore à toutes les deux.
Ouais.
Merci à vous. Ouais.
Et du coup, on se dit à la semaine prochaine.
Dans un nouvel épisode de.
Contre-nature. On est fatigués là.
Merci.
Ciao. Bye bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.